Collecter des sources orales, voir se dessiner les lieux, objets et habitudes d'époques révolues à travers les mots de celles et ceux qui les ont vécues. Se laisser guider par leur voix qui nous mène à la mémoire d'un village, d'un territoire, d'un pays. On y découvre des gestes, des outils, des modes de vie, des odeurs et des chemins. C'est Anne-Marie, Josette, Arlette M, Josie, Roland et Arlette C qui nous conduisent au creux des dédales de ces lieux, qui nous prennent par la main et nous emmènent sur leur chemin ceux qui ont compté pour elles et eux. On y retrouve alors une cartographie partielle et partiale du Royan des années 50, 60 ou 70 avant que la télé, la voiture et le prêt-à-porter ne soient rois, quand le tambourinier, les bals et les cinémas rythmaient le quotidien des habitants et habitantes des villages du Royan, quand se rendre d'un village à l'autre constituait encore un périple, à l'heure où la guerre se terminait à peine. Récit oral, récit choral, traces audio naviguant entre passé, présent et avenir, sources immatérielles de vie en cours. Les souvenirs entraînent des récits et les récits de nouveaux souvenirs. Le déposoir à murmures offre ce temps de contemplation et de témoignage d'une mémoire encore bien vivante. Le déposoir à murmures constitue une polyphonie de récits croisés. À nous de poursuivre le fil tissé par ces voix. Une production Radio Royan-Vercors 2025. C'est une de ces aides à domicile qui nous convie à la table d'Anne-Marie sous la véranda de sa maison Saint-Janaise. Malgré sa pudeur, Anne-Marie accepte de dévoiler des passages de son histoire mouvementée. Tout en retenue et en délicatesse, nous découvrons des vécus douloureux et sensibles d'une période de guerre encore vivace dans son esprit. Sa fille Jackie éclaire à son tour certains souvenirs, tricote avec elle ses récits épars.
En 27, le 7 décembre 1927. Quoi? Eh bien, j'ai 97 ans. Pourquoi je m'appelle Anne-Marie? Parce que j'ai été baptisée comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Là. Ah, mais si, ma mère avait sa mère qui s'appelait Anne-Marie. Voilà, qui est décédée jeune, sa maman. C'est pour ça qu'elle avait... ses sœurs qui avaient une fille, elles les ont appelées Anne-Marie. C'est le nom de ma grand-mère, maternelle. Maternelle. Mon papa, à l'âge de 14 ans, il est parti de chez lui, il est venu en Italie et il a commencé à travailler dans les équipes de maçons, de tout ça. Et après, petit à petit, il est devenu chef de chantier et il a travaillé tout le temps comme ça. Elle était de Grosbois-Montagne, à 38 km de Dijon. Comment ils se sont rencontrés? Eh bien, ils se sont rencontrés à Grosbois-Montagne au moment où ils faisaient l'élargissement du barrage. Alors après, elle a suivi, alors ça a été la Côte d'Azur, ça a été Beau-Soleil, et là, moi je suis née au barrage à Vercors quand ils faisaient l'élargissement des tunnels. pour qu'on puisse passer en voiture. Voyez, ben, j'ai eu la bonne idée de naître là, au mois de décembre. Il y avait de la neige. Dès qu'ils se sont mariés à Auriol, peu de temps après, mon frère est né. Et ils ont roulé, moi, 3 ans après, je suis née. Comment on a atterri à Saint-Jean? Parce qu'il faisait justement ce tunnel, tout ça. Et que son frère s'est marié ici. Il s'est marié à Tamé. Hein. Et donc, il a pu suivre l'équipe de travailleurs. On est allé après, on est resté 3 ans en Italie. Parce qu'il avait ses parents encore. Puis, à la guerre, maman a voulu absolument rentrer en France parce qu'elle avait 5 frères sous les drapeaux. Alors, elle voulait me dire, là, ça n'a pas été une bonne chose parce qu'on était en face de la Suisse. Il y avait le lac majeur, tout ça. Là, on serait allé se réfugier en Suisse. Bon, enfin, c'est la vie comme ça, quoi. Elle a voulu rentrer en France. Eh bien, mon papa était mineur, tout ça, il travaillait tant. Et puis maman, par contre, maman, elle s'est mise à faire de la cuisine aux écoles, à la cantine, ici. Et elle partit même en colonie de vacances à Saint-Tropez avec les enfants pour faire la cuisine là-bas. Ils travaillaient beaucoup, mes parents tous les deux. Ah oui, elle continuait à travailler pendant la guerre. Oui, la cantine, il n'y avait pas d'autre... elle a même fait des galoches, des machins en bois, là, des galoches. Il y a des usines de galoches là-bas en bas, elle n'existe plus maintenant. Vous savez, des marteaux picards comme ça. On se demande même comment il s'est pas fait tuer parce qu'il faisait ces trucs, mon père. Bien souvent, c'était sur des rochers bien hauts. Et une fois, ils sont là où ils étaient qui minaient, la roche est partie sous leurs pieds. Ils étaient deux. Et il me dit comme ça, on voyait la terre qui s'ouvrait, on sautait, je sautais. Je suis arrivée en bas. J'avais plus de col, mon col de pull, plus de peau. Il était décanté un peu. Et son copain, par contre, quand il est arrivé, qu'il a sorti la pile, c'est une pierre qu'il a tapée sur la tête. Après, il est resté un peu sonné. Alors, mon papa, c'était un dur, hein, pour travailler.
Son père était italien et sa mère était de Bourgogne. Donc un jour, je lui ai dit, mais comment ton père et ta mère ils se sont rencontrés? Donc elle m'a aussi raconté l'histoire un peu de ses parents. Alors donc, Arthur, donc son père, il avait quitté sa famille à 14 ans. Parce que son père était très dur. Enfin bon, il avait pris la route et il était venu en France. Il avait travaillé, bon, il avait un peu cassé des cailloux pour gagner sa vie, quoi. Et donc, il est arrivé en Bourgogne et il faisait un barrage. Donc, il a rencontré Hélène. Et donc, il a fait, comme on dit chez nous, Pâques avant les rameaux. Ça veut dire qu'il a mis enceinte avant de se marier. Et donc, il est reparti, je crois, à la Plaine, travailler à l'usine de la Plaine. Et là, il a appris qu'Hélène est enceinte. Donc, il est remonté en Bourgogne. Alors, je crois que... Je ne sais pas s'il n'y avait pas une histoire d'enlèvement pour... on enlevait la fille pour après que pouvoir se marier avec elle. C'était un peu symbolique. Donc, en tous les cas, il s'est marié avec elle. Et ils sont venus vivre dans l'Orient. Et après, donc, je crois qu'ils sont allés vers Nice. Il est allé travailler là-bas. Et donc, ils sont retournés en Italie. Et Hélène a ouvert une auberge. Elle avait assez de succès. Elle a bien gagné sa vie. Lui, il ne pouvait pas travailler parce qu'il n'avait pas pris sa carte au parti fasciste. Il ne voulait pas prendre sa carte au parti fasciste. Donc, il ne trouvait pas de travail. Donc, comme c'était un peu un homme des bois, il coupait du bois, il ramenait du gibier à la maison, enfin bon, il faisait des petits boulots et il arrivait à vivre comme ça. Puis ils ont eu Berthaud, puisqu'il était revenu le chercher. Berthaud avait 16 ans à cette époque-là, donc Hélène, elle a eu peur qu'il soit enroulé dans l'armée fasciste. Donc elle est revenue en France avec Nénette et Berthaud, ils sont revenus tous les trois en France, mais Arthur, il ne pouvait pas revenir parce qu'il était italien et donc les Italiens ne le laissaient pas franchir la frontière entre l'Italie et la France. Donc elles sont restées seules un moment, lui est resté aussi là-bas. Et donc ma tante raconte qu'un matin de Noël, elle a entendu des pas dans l'escalier, et elle a tout de suite dit « c'est mon père qui revient ». Et donc son père, il avait traversé les Alpes à pied pour revenir en contrebande, quoi, pour revenir et regagner la France. Et donc après, bon, il a demandé d'être naturalisé, tout ça, ils ont fait les papiers. Et après, ils sont revenus dans le Royan parce qu'il y avait un Pédoya qui habitait à Tamé, je ne sais pas pourquoi. Donc ils sont rapprochés de sa famille, à lui. Ils ont pris le train et Berthaud et M. Pédoya, ils étaient à vélo. Après, ils ont vécu à Saint-Jean, voilà.
Ma vie a été mouvementée parce qu'on a fait beaucoup de pays. Et puis ses parents n'étant pas décédés, il a voulu aller un peu rester avec eux en Italie. Ce qui fait qu'on est resté 3 ans en Italie. Mais maman ne voulait plus rester parce qu'il y avait Mussolini. Et mon frère avait 16 ans, il risquait d'être pris. Ben, c'était en 1940-41, tout ça, les Mussolini. Varese. C'est à côté, pas loin de Milan. Et le petit pays s'appelle Guastalmonte. Ça s'appelle la Bella Vista. Alors prenez-le comme vous voulez. On y va et on voit tout le lac et la Suisse en face. C'est sur le lac de Comme, là, tout ça. Un très joli pays, là. Non, en Italie, j'y suis allée quand j'avais déjà 9 ans, 9, 10 ans. Pour voir ses parents, on est resté 3 ans là-bas et on est revenu. La guerre était déclarée, puisque mon père n'a jamais voulu être fasciste, il n'a jamais voulu faire partie d'aucun truc. C'est-à-dire au moment où on l'a quitté, au moment où on était là-bas, c'était Mussolini. Alors, vous savez, t'en allais à l'école, qu'il fallait aller. On était plus souvent sur le stade de sport à faire les saluts italiens. Là. Ouh là là, ben oui, obligé. Ah ben, il y avait toutes les écoles hein, qui étaient sur des grands stades. Et puis un fasciste qui était sur une grande estrade avec le chapeau, avec les machins. Là, et, vous savez, le chapeau qu'ils ont... Alors, c'est eux qui nous commandaient, on était... Hein? Et puis maman, alors n'en parlons pas. Elle a glissé de partir parce qu'elle voyait son fils qui grandissait, il allait avoir 16 ans, il dit les fascistes vont me le prendre. Il va falloir qu'il aille aussi faire le défilé et tout, elle ne voulait pas. Et je me souviens que nous, on est rentrés en français, on a eu le droit français, mais mon père n'avait pas eu le droit. Alors, il a traversé les Alpes à pied. Attendez, je ne peux pas vous dire, là, en 40-41, par là, vous voyez, quand la guerre s'est déclarée en 39, vous voyez, tout de suite après, quoi. Il avait 12 ans. Il a traversé les Alpes à pied. Et un matin, je me souviens, on habitait dans un petit appartement en attendant qu'il puisse rentrer à côté d'un trottoir qui desservait l'immeuble. Et le jour de Noël, j'ai crié « C'est papa !» J'ai reconnu son pas dans le couloir. Alors, je ne sais pas le temps qu'il a mis, mais il était chasseur alpin de son... Alors, il savait marcher dans la montagne. Et là, il était allé tout de suite à la préfecture. Il a dit « Je suis italien, je ne suis pas naturalisé, pas plus que je veux me naturaliser français, je suis comme je suis. Mais si vous avez besoin de moi, je suis là. » Et bien, quand on est rentré à Dijon, on est resté à Dijon parce que maman avait encore son papa à Grosbois-Montagne. Alors, on est arrêté là. Et puis, quand il est arrivé l'exode, mon frère était là aussi, On a tous embarqué pour... Alors, nous, sur les trains, et mon frère et mon papa, en vélo. Bon, ils ont fait la route en vélo de Dijon. Là. Alors, ils étaient donné rendez-vous, comme quoi on s'arrêtait à Valence parce que son frère était attamé. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a atterri ici avec l'intention de repartir après la guerre à 10 ans parce que mon frère suivait ses études. Et puis finalement, ça s'est mal passé puisque mon frère a été fusillé par les nazis parce qu'il était au maquis. Puis quand les Allemands ont bombardé, là, qu'ils ont parachuté des Allemands, ils se sont sauvés, qui d'un côté, qui de l'autre. Là, ils étaient par groupe de quatre. Et eux, ils se sont fait attraper à côté de Die, à Romeyé, un petit village à côté de Die. Ils ont été dénoncés. Et là, ils ont été pris et ils ont été fusillés à Die. Et un milicien les a fusillés. Il en a fusillé 28 à lui tout seul. Mais moi, j'avais 17 ans et mon frère 20 ans. Et c'est pour ça qu'on est resté à Saint-Jean, parce que mon frère a été enterré ici. Voilà.
Non, on n'en parlait pas pour les repas de famille. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, j'allais donc chez ma cousine, la fille à Nénette, et il y avait une photo d'un beau garçon sur le buffet. Mais quand j'ai demandé qui c'était, on me disait qu'il ne fallait pas en parler, que la mémé Hélène, donc la mère de ma tante, ça lui faisait trop de peine si on en parlait, etc. Donc c'est qu'après que j'ai su qui c'était par mes parents, etc. Ben, mes parents, eux, ils en parlaient. Ils disaient que Berthaud avait été tué par les Allemands. Ils ne disaient pas la milice, ils disaient les Allemands. Eh bien, s'ils sont partis, quand à Saint-Jean, il y a eu le bombardement là, du 29 juin 1944, et donc, ils ont répondu à l'appel montagnard, c'est-à-dire qu'on demandait aux jeunes de monter dans le Vercors pour lutter contre les Allemands. Donc, ils sont montés au maquis avec beaucoup de gens du Royan, gonflés à bloc, pleins d'enthousiasme. D'abord, ils sont allés aux Berneries. Berneries, c'est un endroit où était captée l'eau du Royan. Ils ont ouvert la route de Lente, juste en dessous de Saint-Jean. Ils ont commencé à faire des gardes de nuit, etc. Et ensuite, ils sont allés... Il y a 38 maquisards. Ces maquisards-là sont allés près de Vassieux. Ils sont montés donc dans le Vercors. Oui, Berthaud est mon oncle. Ils étaient un peu inséparables et donc ils sont montés avec d'autres Saint-Jeannais. Mon oncle, c'est Jean. Jean Chuilon et Berthaud Pédoya. Ils avaient 20 ans, oui. Elle racontait, par exemple, que son père, qui était artificier, avait été réquisitionné par le maquis pour placer des mines sur les tunnels qui montaient au Vercors. Donc tous ces tunnels étaient minés. Pour, au cas où les Allemands montraient, ils feraient sauter, ils ne passeraient pas par la route. Bon, on sait qu'ils sont passés par les falaises aussi, mais il y a eu des troupes d'élite de l'armée allemande qui sont montées par les falaises pour accéder au Vercors. Bon, il y a eu les planeurs aussi, mais la route était bien protégée, mais le reste, pas trop. Il y a eu la grande bataille du Vercors, du Grand Véman, etc. Et donc là, vraiment, les Allemands étaient, il me semble que j'avais vu, c'était 20 fois plus que ces jeunes maquisards, puis en plus de l'armée aguerrie. Donc à un moment, on leur a demandé de partir, de se disperser et de descendre. Alors ils sont descendus par leurs propres moyens. Bon, dans le Royan, on disait que les militaires de métier avaient pris les guides et les jeunes avaient dû se débrouiller tout seuls. Les jeunes qui étaient expérimentés, qui n'étaient pas quand même des soldats de métier. Et donc, mon oncle Jeannot, lui, ils sont dispersés avec Berthaud, je ne sais pas pourquoi. Ils sont séparés, alors qu'ils ne se séparaient jamais. Et mon oncle est descendu jusqu'à Bouvante-le-Haut. Et bon, il est resté caché un moment, puis il a réussi à redescendre à Saint-Jean. Et Berthaud, avec trois de ses compagnons, sont allés sur Romeyé, Verdi. Donc là, ils étaient assoiffés, affamés, les pieds en sang. Donc ils se sont résignés à gagner ce petit village. Une femme apeurée, qui craignait pour ses enfants, les a accueillis pendant un moment, mais elle ne voulait pas qu'ils restent trop longtemps. Elle leur a donné à manger, elle les a soignés, mais après, ils ont dû partir. Donc, ils se sont cachés. Et là, alors, ma tante m'a bien dit de marquer à ce qu'on dit qu'il y avait un garde champêtre qui les avait dénoncés à la milice. Donc, la milice est arrivée. Donc, ils se sont cachés. Un soldat qui soulageait une envie pressante les a trouvés à cette occasion. Ils étaient cachés dans un ruisseau. Et donc, ils ont été embarqués à la prison de Die. Là, ils ont été, bien sûr, torturés. Et un milicien, qui était un dentiste de la Motte-Chalancon, qui portait l'uniforme allemand, a exécuté 28 partisans, dont ces quatre Saint-Jeannais. Le soir même. Je pense que ça dénote qu'il était vraiment acquis à l'idéologie nazie. Hein. Il était bon, je veux dire, qu'à cette époque, il n'y avait pas que des résistants, il y avait aussi des gens qui étaient, qui prenaient fait et cause pour les nazis. Et donc lui, il en faisait partie. Je crois que tout à l'heure, j'ai dit que c'était la milice, mais c'était en fait, c'est les Allemands qui ont capturé ces quatre Saint-Jeannais. Mais après, ils ont laissé faire la sale besogne à la milice. Parce qu'il y avait la bataille de Montélimar qui faisait rage et pour eux, ils commençaient à sentir le roussi. Ils ont abandonné la place et donc c'est les miliciens qui ont fait la sale besogne de tuer ces 28 partisans. Alors ma tante et ses parents étaient réfugiés à Tamé, à quelques kilomètres d'Auriol, donc je crois chez un gars de leur famille. Et donc ils pensaient être à l'abri et puis en fait les Allemands sont arrivés à Tamé. Et bon, ma tante dit que M. Pédoya, il ne savait pas encore que son fils était mort. Et déjà, il avait dit, si je savais que mon fils a été tué au maquis, je les tuerais tous, etc. Et bon, il y avait aussi, ils avaient peur des représailles, donc il n'a pas bougé. Et donc, comment ils ont appris? Ben, il y a une femme qui, derrière ses volets, cachée, avait vu cette exécution. Donc, je crois que c'est le curé, il y a eu plusieurs personnes qui sont allées récupérer les corps, qui les ont mis en bière avec de la lavande pour aseptiser un peu ces corps. Et donc, ils ont téléphoné à Madame Pédoya pour leur dire que leurs enfants étaient morts. Disons que moi, mes parents m'en parlaient, mais disons qu'il avait été assassiné et qu'il avait été exécuté par les Allemands, on disait même pas la milice. Disons que dans la famille Pédoya, ça se parlait pas, quoi. C'était un peu un sujet tabou, ça remuait trop de malheurs, quoi.
Trois ans, mais oui, bien sûr, j'ai appris l'italien, d'autant plus que l'institutrice ne voulait pas que je parle français. Non, avec mon père, on n'a jamais parlé italien, jamais. C'est pas qu'il ne voulait pas, ça s'est fait comme ça. Avec maman, on parlait français, avec lui aussi. Et puis lui, il était en France depuis l'âge de 14 ans, alors le français, il était... il le parlait sans accent ni rien. On a eu une jeunesse plutôt calme, quand même. Comme c'était la guerre, on ne sortait pas trop. Hein. Bon, il y avait bien des balles clandestins, mais moi, mes parents ne voulaient pas que j'y aille. Et fait que je ne m'en suis jamais tellement occupée, parce que mon papa, il serrait la vis, ça, il ne voulait pas, il avait trop peur. Il se passait tellement de vilaines choses, il ne voulait pas. Il était sévère, mon papa. Maman, non, ça va, elle était plus douce. Mais enfin, des gentils parents. Des rêves. On rêvait que ça se termine. Comprenez? On rêvait que ça se termine parce qu'on n'avait pas le droit de sortir. C'était dangereux, tout ça. Alors, on avait une vie de jeunesse qui ne s'est pas passée, en fait. Tous ceux qui ont vécu la guerre, c'était pareil. Et puis en plus, après, quand mon frère a été tué, ça a été pire.
Lecture des rédactions d'Anne-Marie de l'année scolaire 1941-1942 par sa fille Jackie. Vendredi 28 novembre 1941. Il est 11h. Les premières gouttes commencent à tomber. Décrivez la ruelle de l'école des filles et la sortie de l'école sous l'averse.
C'est la sortie de l'école. Le ciel est couvert de gros nuages gris. Les premières gouttelettes serrées et pressées de l'averse commencent à tomber. Elles s'abattent sur le sol avec un bruit monotone. Rapidement, l'averse devient torrentielle. Les jupes collées aux jambes, les pieds trempés, les parapluies et les imperméables ruisselants, les mamans sous l'averse attendent leurs enfants à la grille de l'école. Les élèves sortent en criant. Quelques-unes endossent des imperméables, les autres ouvrent des parapluies déjà mouillés. Tous montent la ruelle, courent, s'enfoncent dans la boue jusqu'aux chevilles, s'abritent contre le mur. La pluie teinte avec violence sur les pierres, la ruelle n'est plus qu'un ruisseau qui roule des eaux boueuses. Peu à peu, l'averse se calme, les dernières gouttes, les plus lentes, tombent et s'écrasent dans des flaques d'eau.
L'école primaire, j'étais ici, mais pas dans cette maison, dans une rue qui était dans la rue de l'Industrie, là. Dans le village, oui. Le village, après, il a été bombardé, mais l'école, non. T'as dit, il fallait que je laisse tomber le français. Ce qui fait que pendant 3 ans, j'ai plus fait de français, à part parler français avec mes parents. Et puis, c'est-à-dire qu'avec tous ces changements, j'avais pris trop de retard. Alors moi, j'étais grande à côté des petites, des autres élèves qui étaient... Alors, on se moquait un peu de moi. Alors, j'ai plus voulu à l'école. Alors, j'ai appris le métier de coiffeuse. Après le certificat d'études. Puis après, je me suis lancée dans la coiffure. Ben, parce que c'était un métier qui me plaisait bien. Mais comme j'avais cessé et je voulais plus continuer l'école, j'ai commencé d'apprendre chez une coiffeuse. Puis après, je suis allée à Romans. Et puis, je suis allée à Paris. Où je suis restée chez une tante. J'avais les sœurs de maman qui étaient à Paris et je suis restée à Paris pendant quelques mois, un an ou deux. Bon, j'avais 18 ans. Puis je passais la vie à l'école et puis après je prenais le métro pour vite rentrer parce que j'avais une tante qui était sévère. Puis bon, du fait que je ne connaissais pas grande jeunesse finalement, j'aimais autant rentrer.
Vendredi 23 janvier 1942. Devoir de français. Votre maman a dû s'absenter hier toute la journée. Elle vous a chargé de préparer le repas. Racontez.
Dans un panier en osier, s'entassent les épluchures fines, longues, enfarinées de terre sèche des pommes de terre. Maintenant, sur la table, les pommes de terre bien pelées, bien lavées, lisses et couleur du beurre, forment une pyramide de boules jaunes. Une à une, je les prends. Quelques-unes, encore mouillées, me glissent entre les doigts. Avec un couteau à la lame coupante, comme un rasoir, je les tranche en rondelles, qui tombent en pluie dans un faitout plein d'eau bouillante. Je remplis le fourneau de bois sec. Aussitôt, une flamme rouge et crépitante lèche le fond noir du faitout. L'eau chaude bout. Une légère vapeur soulève de temps en temps le couvercle qui fait entendre sa chanson monotone. J'enlève le couvercle. Une bonne odeur de pommes de terre se répand dans la cuisine. Je jette une poignée de sel gros dans l'eau bouillante. À midi moins le quart, les pommes de terre sont cuites. Je les retire et je les fais égoutter dans une passoire pendant que je fais réchauffer un reste de viande en sauce. Je décroche un presse-purée pendu à la batterie de cuisine et, louche par louche, je presse les pommes de terre dans une casserole en émail. Les pommes de terre farineuses sortent par des petits trous en longs fils comme des cheveux d'ange. Ensuite, avec un morceau de beurre très petit, je bats la purée et je la pose fumante et odorante sur la table.
Vendredi 13 février 1942. À 11h, la ruelle de l'école de filles s'anime de cris et de rires. Décrivez.
Longue et étroite, nichée entre le haut mur de pierre de l'hôtel de ville et des jardins saupoudrés de fins cristaux qui brillent au pâle soleil, la ruelle de l'école de filles, calme et silencieuse, descend en pente douce et aboutit dans la cour de récréation, plantée de 4 platanes aux rameaux dénudés. Une épaisse couche de glace recouvre ces petits cailloux blancs et roses à la tête arrondie. D'un côté, un haut trottoir en ciment, accompagné d'une balustrade en fer, la domine, comme les alvéoles d'un pain de cire. Plus bas, les alvéoles au grillage souligné d'un trait de givre, pareil à un tulle, la sépare des jardins de l'hôpital. En même temps que les coups de cloche sonnent au clocher, une petite fille passe en courant sur la galerie qui surplombe une partie de la ruelle. Aussitôt, une nuée de grandes et de petites filles, emmitouflées dans des manteaux, riant aux éclats, criant, bavardant, animent la ruelle. Quelques-unes, craintives, s'accrochent au mur, d'autres au contraire courent et s'élancent sur la glace. De temps en temps, une boule de neige va s'écraser sur le dos d'une élève.
Vendredi 27 février 1942. Vous rentrez par le car à Saint-Jean-en-Royans. À 2 ou 3 km du village, au tournant de la route, le bourg vous apparaît. Décrivez-le vu de loin, puis précisez vos observations au fur et à mesure que vous vous rapprochez.
C'est un jour du mois de juin, radieux, inondé de soleil, mais triste pour nous. Le car roule à une bonne vitesse sur la chaussée goudronnée de la route nationale. Tout défile devant moi. Fermes animées, des cris perçants des volailles, prairies où quelques vaches broutent tranquillement, et jusqu'à une rivière qui coule calme et limpide. Tout à coup, à un tournant, une longue masse rouge, encadrée de verdure, se dessine à l'horizon, au pied d'une haute montagne. Le car roule toujours. Peu à peu, je distingue les grosses maisons grises aux toits moussus et aux cheminées éteintes, le long toit d'ardoise de la mairie, la haute silhouette du clocher et le cimetière qui ressemble à un grand carré d'herbe verte piqué de taches blanches. Maintenant, le car passe devant la gendarmerie. Ses grands murs sont tapissés de lierre. Au balcon de la façade, notre beau drapeau tricolore flotte au vent tiède du printemps. Il monte l'avenue Jules Nady, traverse la place du Champ de Mars, où quelques vieillards se reposent sur des bancs à l'ombre des platanes touffus. Et enfin, il s'arrête devant la grosse maison jaune de la Poste sur la place de l'église. Une fontaine de 4 signes de fer déborde d'eau fraîche.
Au début, j'étais employée. Et après, c'est moi qui ai remplacé ma patronne. Avant d'être à mon compte, j'allais travailler à Romans. Je faisais la route en vélo le samedi soir. Oui, je faisais Romans-Saint-Jean. Enfin, mes parents n'avaient pas de voiture, moi non plus. Tout au moins, c'était les riches qui avaient des voitures. Mon père travaillait à la montagne. Il avait des prisonniers de guerre qui étaient sous ses ordres pour couper du bois, faire tout ça. Et maman faisait la cuisine. Alors le samedi soir, je montais à Musan. Résultat, un jour, on m'a descendu sur un brancard parce que j'avais pris des chauds et froids en faisant ça. Et je me suis couchée avec une pleurésie. Les poumons pleins d'eau. À cause de transpirer, je m'arrêtais d'abord à la maison. Comme maman travaillait, faisait la cuisine au bûcheron, moi, là, je m'arrêtais à Saint-Jean avant de monter, mais je voulais nettoyer la maison, alors je frottais les planchers et tout ça, et je partais naturellement tout en nage. C'est comme ça que j'avais pris froid. Je montais à vélo jusqu'à Tamé, parce que c'était pas possible de monter là-haut. Et à Tamé, je prenais un cheval. Je montais à cheval jusqu'à Musan. À Musan, rien du tout, j'étais là juste le dimanche, quoi, samedi soir et le dimanche. Je respirais l'air pur. Je travaillais et après je suis revenue à Saint-Jean. Le salon de coiffure était sur le Champ de Mars. Là. Je ne sais pas s'il existe toujours, je ne crois pas. En face de la place, on était 4, et bien là il n'y a plus que 2. Mais il y a beaucoup de coiffeuses à domicile. Je sympathisais toujours avec mes clients, ce qui fait que ça a marché bien. Hein? Mais bon, disons que, vous savez, quand j'avais fait, parce que maintenant, vous allez au coiffeur, à 6h30, maximum 7h, c'est fermé, si c'est pas à part. Mais moi, c'est des fois jusqu'à 9h. Les femmes travaillaient en usine. Elles travaillaient toute la semaine. Donc, c'était le samedi. Alors, le samedi, ça se groupait. Alors, bah, je faisais même la comptabilité de mon mari le soir. Je l'aidais à faire ça. Des fois, le soir, il était bien fatigué. Bah, j'ai dit, donne-moi ce que tu as à faire, là, que je te le ferai. Au salon, moi, j'avais un comptable, moi. C'est bizarre parce que, du fait que je travaillais le samedi aussi, et le dimanche, je n'avais pas envie de sortir tellement j'étais fatiguée. Ce qui fait que des amis, petit à petit, sont partis, ont trouvé d'autres amis, se sont mariés, sont partis d'ici. Ce qui fait que des amis à Saint-Jean, j'en ai plus.
Le maire Benjamin Malossane.
Ah, comment il faisait tant de ses cheveux. Oh, ben, il veut des tares. Alors, il m'enquiquinait parce qu'à l'époque, on avait l'appartement dans la salle de coiffure. Alors, la cuisine était au fond. Alors, on fermait avec la porte et mon mari attendait parce qu'il venait toujours à des heures impossibles. Alors, bon, il se faisait tant parce qu'il ne voulait pas être. Mais il me barbait, on peut dire. Il voulait pas qu'il y ait quelqu'un. Alors il fallait que je ferme la porte pour que personne vienne pendant qu'il était là. Et puis alors on mettait au fond du magasin pour pas qu'on le voie de dehors. Il voulait pas qu'on voie ses cheveux blancs, il voulait se les faire teindre, mais il voulait pas qu'on le sache. Comme si tout le monde le savait. Voilà. J'étais devant mon salon de coiffure à Saint-Jean-Royal avec une voisine. C'est moi. Oui, c'est moi. Ah, c'était le 22 juin 1952. Là, c'est la porte du salon. Faites voir si c'est... Oui, c'est la porte du salon, salle de la vitrine. Et oui, parce que je crois que c'était carnaval. Qu'est-ce que c'était que cette calotte qu'elle m'avait mise sur le chapeau? Elle aussi, on ne la voit pas. Ah ben, j'avais ma blouse blanche. Oui, c'est une blouse boutonnée, tout blanc. Ben, je lui dis, j'ai drôlement changé. Hein? Vous dites pareil, hein, quand vous me voyez. Ah, vous me reconnaissez quand même? Oui. J'ai l'impression que j'ai rapetissé maintenant. Hein? Non, je faisais pas, bon, ben, parce que l'autre, elle est petite à côté de moi, c'est pour ça. Il y avait des produits toxiques à l'époque et j'étais toujours fatiguée, toujours. Alors, ma mari a dit tu arrêtes ça parce que je ne pouvais plus supporter. Alors, je lui ai dit j'arrêterai que si c'est quelque chose d'autre à faire. Et puis, un beau jour, je le vois arriver, il me dit je t'ai acheté un magasin. Ah oui, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Bon. Hein? Je l'ai regardé, il me dit oui, tu verras. Tu verras. Et il m'a acheté ce magasin de laine, de vêtements, tout ça, quoi. Voilà. J'ai gardé pendant longtemps, c'est le magasin vide. Et alors j'avais fait la moitié du magasin en laine, parce que les gens tricotaient beaucoup. Mais bon. Alors la laine, ça marchait bien. Et la partie de droite, c'était des sous-vêtements surtout. Puis d'art, c'était surtout la laine. Je crois que je me suis arrêtée quand c'était l'âge de la retraite, là. J'ai pris ma retraite à 65 ans. Profiter de mon temps, oui, j'ai profité, mais je ne me rappelle plus. J'allais me promener en vélo.
Salon de coiffure, oui, je m'en rappelle, oui. C'était coiffure pour femmes, hein. Il n'y avait pas à ce moment-là les hommes, à part le matin qu'il a raconté que le maire de Saint-Jean, Benjamin Malossane, allait se faire teindre les cheveux, il y allait le soir parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie. Il n'y avait pas d'hommes qui allaient dans les salons de coiffure. Mais oui, des fois, j'y allais, mais c'est vieux parce que Et plus vieux. Ah oui, le magasin, j'allais souvent, oui. J'allais souvent parce qu'il y avait mon oncle qui avait une hémiplégie qui était handicapé, disons, et qui servait avec elle. Donc j'allais le voir, mon oncle. J'étais très lié avec mon oncle parce qu'il a travaillé dans une usine, une tabletterie avec mon père. Ils commençaient très tôt et à 8h30, ils venaient casser la croûte à la maison qui était juste en face. Donc mon oncle, je le voyais tout le temps. Donc j'étais très lié avec lui. À 43 ans, je crois, il a eu une hémiplégie et donc il a fait un AVC, quoi. Et donc il est resté paralysé. Il a dû apprendre à parler avec un orthophoniste et donc il a gardé des séquelles au niveau moteur. Et c'est marrant, oui, parce qu'elle lui a quand même consacré sa vie, quoi. Parce qu'il était handicapé, elle s'est occupée de lui. Ça a été, maintenant on dirait, une aidante toute sa vie.
Le plus fort, c'est que je ne me rappelle même plus comment j'ai rencontré mon mari. Parce que lui, il n'aimait pas aller au bal. Je sais pas. Si je vous disais que je ne m'en rappelle plus, parce que sur la place de la mairie, ce n'était pas comme ça. Il y avait des murs. Il y avait la place, le monument, mais devant, il y avait des murs tout le long, avec l'entrée, un passage pour ceux qui avaient rentré. Machin. Et tous les jeunes, en général, se mettaient tous sur le mur. Et quand les filles, elles passaient, ça sifflait. Et c'est comme ça que mon mari m'a couru après. Eh bien oui, parce que je passais tous les jours. Non, je ne vais pas vous raconter ma vie. Ah ben, ça a duré un moment avant que je dise oui. Je me suis mariée en 1950. Je suis restée avec mes parents jusqu'à ce que je me marie. Et elle est née un an après. 51, ma fille, j'en ai pas d'autres. Non, j'ai dit à mon mari, non, oui, parce que je travaillais. Bon, on n'avait pas d'argent, ni l'un ni l'autre. Lui travaillait une usine de bois qui ne marchait pas trop. Alors, on était obligés de travailler tous les deux. Alors, comment vous dire? Vous savez, là, au bout de la route, il y a une route qui descend comme ça. Eh bien, ça va sur le plateau, là où il y avait une grande usine. Vous savez, d'abord, Saint-Jean, c'était que des usines en bois, ou des cuillères en bois, ou des galoches, des machins comme ça, mais surtout beaucoup de cuillères en bois. Mon mari avait une petite usine sur la route de Bouvante, là, c'était des cuillères en bois. Donc moi, j'ai dit à mon mari, si tu en veux un deuxième, je laisse mon travail, parce que je veux pas d'avoir un bébé qui soit une fois d'un côté, une fois de l'autre. Tout. Alors, il a continué de travailler. Moi, j'ai travaillé un petit peu, mais c'est maman qui l'a gardé un petit peu. Et puis après, ça s'est bien passé. J'ai continué de travailler. Ça allait bien comme ça. Si on a cœur à travailler, ça ne pouvait pas faire. La vie était trop chère et les moyens étaient limités. Voilà. C'est pour ça que j'ai eu qu'une fille. Et elle est là, une fille et une petite fille. Que des filles à la maison. Que des filles. Elle est là, elle n'est pas loin. Je n'ai pas. Je vais y arriver. Voilà. Que des filles. Quatre filles. Quatre générations. Hop. Et mes parents ont habité un peu avec nous tant qu'ils ont été en vie. Ils faisaient le jardin, mon papa. On avait fait la folie de prendre un petit studio à Aiguebelle. Je ne sais plus où, vous voyez, plus près de la frontière italienne. Parce que mon mari travaillait encore, et moi aussi, parce qu'on ne roulait pas sur l'or. Et puis après, bon, mon mari était fatigué de faire cette route, tout ça, et puis moi aussi. Finalement, je l'ai donné à ma fille. Dans la rue, là où il y avait mon salon de coiffure, il n'y a plus de magasin. En face de... Vous voyez où est la rue? La rue Jean Jaurès, c'est à partir de la place de l'Hôtel de Ville jusqu'en haut, il y avait plein de magasins avant. Vous voyez? Et il y avait deux salons de coiffure. Il y avait un salon de coiffure à peu près au moitié de la rue, il y avait le mien. Et puis il y avait boucherie, ça allait jusqu'en haut. Et maintenant, vous voyez, dans la rue, à partir du champ de, la mairie, là, de la place de la mairie jusqu'en haut, il n'y a plus de magasins. Mmh. Mais avec Intermarché et tout ça, avec des grandes surfaces, ça a tout disparu, ça. Non, 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 je ne me rappelle pas être allée au café avec mes copains ou tout ça. Non, 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 je n'allais pas au café. On n'allait pas, les femmes ne sont pas saoules, se saoulent pas. Hein. Ouais. Maintenant, les femmes, elles vont au café comme les hommes. Mais ce n'est pas pour boire du vin, c'est je lis des fois des romans, des livres de la bibliothèque. Non, pas des romans d'amour. C'est un peu des romans d'aventure, plutôt. Policiers, aventure, ouais. Je regarde un peu la télé, mais comment vous dire, je ne m'occupe pas trop de la politique, ni de tout ça. Même, il y a des têtes que je n'aime pas. C'est bizarre que, si on pense aux prochaines élections, c'est bizarre. Hein? C'est bizarre. Ouais, ça fait peur. Vous voyez que j'ai 97 ans. Le 7 décembre, il faut que j'aille à mes 100 ans parce que le docteur m'a dit qu'il voulait boire une coupe de champagne le jour de mes 100 ans. C'est drôle que je me rappelle, il y a dit, je perds la mémoire. Hein. C'est sérieux ce que je vous dis là. Mais non, mais il y a des choses que je ne me rappelle plus, alors ça m'énerve. Bon. Je ne sais pas si j'aime la vie ou quoi, mais bon. Maintenant, je suis obligée de marcher avec une canne parce que j'ai mal aux jambes. Du Royat, j'aime tout. Non, mais j'aime bien mon coin. Mes aides, j'ai des aides adorables. Je ne rêve plus maintenant. Ou quand je fais des rêves, c'est des rêves, des cauchemars. Un jour, j'ai tellement fait des cauchemars que je me retrouvais par terre de mon lit. Parce que je me battais avec des voleurs, je ne sais plus quoi. Je me suis tellement battue que je me suis réveillée par terre. Alors maintenant, je me fais en sorte de me coucher bien au milieu du lit parce que je me dis, j'ai eu plus de vilains que de beaux. Parce qu'on a passé notre jeunesse avec la guerre. Ça a marqué toute notre vie, surtout quand mon frère a été assassiné. Alors ça... Ah ben oui. Ça a été... Ça a rompu. Oui. Hein? Mmh. Je vous ai dit, moi, j'ai perdu mes amis, tout ça. Mais c'est-à-dire qu'il n'y en a plus guère en vie. Hein. Je les ai comptés l'autre jour, je me suis dit. Mais il n'y en a plus. Ils ont toutes disparu, en fait. Hein. Elles sont mortes plus jeunes que moi. Voilà, mesdames. Je vous ai tout dit. Hein. Ne m'en demandez plus.